CJSO 101.7 avec Luc Deloncourt. À deux, c'est mieux.
C'est ça le comble à la Pouftifaille aujourd'hui, et c'est normal. Mon invité, c'est Marthe Laverdière.
Normal, j'entends pas.
Ouais, parce que le son est pas fort, peut-être. Sinon, on va le mettre, pas d'écouteur, mais est-ce que ça va?
C'est-tu?
Ouais, pas d'écouteur, tu vas m'entendre quand même. Ça va bien, merci d'être là.
Ça va bien.
C'est un horaire assez chargé. On se parlait de ça, donc.
Là, oui,
c'est
oui,
pas mal, de rock'n'roll. Là.
Oui, après rock'n'roll, c'est rock'n'roll. Là, ça roule pas mal. Bien, tu vois, là, c'est parce qu'à un moment donné, on dirait que tout arrive en même temps. Il y a eu les salons du livre qui ont demandé beaucoup de temps. Ensuite, bien, j'avais la fin de mon rodage de show. Fait que là, tu sais, on a eu 3 jours cette semaine, les lumières, le décor, tout ça, m'habituer à ça, tu sais, pour pas me tuer non plus là-dedans. C'est pas mon gros métier principal. Ensuite, ben là, on est allé tourner pour Bonsoir, Bonsoir. On est allé tourner pour Sucré Salé. Tu sais, il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Mais là, je vais avoir 4 jours de vacances.
Wow!
Je capote! Elle là, m'a dit quand
attends,
t'es rendu.
Non, est-ce non. que vous allez rien faire pendant 4 jours ou vous allez aller travailler sur le terrain?
Mes bobettes, bon temps, hein, quand c'est rendu. Donc, quand c'est rendu que tu lèves des bobettes au lieu de l'acheter, m'avoir une méchante corde à lingine, des bobettes.
On parlait de la biographie,
oui.
Qui a été une proposition des éditions de l'Homme.
Oui.
Est-ce que vous avez dit oui tout de suite?
Quand ils m'ont arrivé avec ça, Marc, t'auras pas le goût d'écrire ta biographie, j'ai fait... Tu sais, moi, j'ai fait une grosse dépression de 2007 à 2010. Puis je pensais avoir fait le tour. Tu sais, il faut que tu rentres en dedans de toi, mm-hmm. puis tu règles des affaires. Puis là, je me suis dit, ça y tente-tu à bonne femme de rentrer là-dedans? Puis après ça, je me suis dit, écoute, si je le fais, j'y vais à fond, mais je vais te le dire quand ça va être fini d'écrire. Je ne savais pas comment ça allait être. Fait que je vais t'avouer que ça a été fait d'un seul jet. Puis quand ça a été fini, j'ai resté surpris. Premièrement, je ne l'avais pas fait chronologique. Puis je l'avais mis au-dessus, pas au-dessus. Ils n'avaient jamais vu ça. Ils ont dit, une chronologie au-dessus, tu sais. Je me suis rendu compte que j'avais écrit une grosse lettre. Puis... je voulais parler à la personne qui me lisait personnellement. Je ne voulais pas parler à une foule. Je voulais parler à cette personne-là. Je voulais qu'elle comprenne qui j'étais moi. Puis ça l'a donné ce livre-là. Puis je suis contente. Je suis contente de l'avoir fait. Oui.
Est-ce que c'était plus facile de raconter la dépression parce que le temps avait passé ou c'était encore dur à écrire?
J'ai pas peur, moi, de parler de ça. Je pense que, regarde, on n'a pas tué personne. On a été malade. Il faut arrêter d'avoir peur de dire qu'on est en dépression. Là, ça a été plus facile parce que j'avais pas la fatigue physique qu'on vit quand on est en dépression. Tu sais, quand on est en dépression, on est brûlé. Le physique suit plus. Fait que c'est très dur de combattre ton psychologique quand tu es toujours fatigué.
Et ça a surpris tout le monde. Cette dépression-là, parce que vous n'en avez pas parlé à personne.
Bien, dans le livre « Jardiner avec Marthe 2 », j'en avais parlé un peu.
Ouais.
Je l'avais effleuré parce que je me rendais compte que je rencontrais des personnes, quand je donnais des conférences, qui me surestimaient, qui disaient « Hey, toi, hein, ah,
c'est
ah,
tout.
Hey, toi, t'as une vie. Hein? » Et là, je me suis dit « Ben non, on est tous pareils. » Je ne comprenais pas que les gens pouvaient penser que ça ne pouvait pas m'arriver à moi, ça peut arriver à n'importe qui. Et j'en avais parlé un peu, mais de là, je suis rentrée réellement en profondeur. J'ai parlé de mon cheminement là-dedans à moi. Je n'ai pas voulu être médicamentée, ce que je conseille à personne. J'étais assez folle dans ce temps-là pour dire, si c'est moi qui m'en rentrais là, je vais m'en sortir toute seule, ce qu'il ne faut pas faire. Et j'ai réellement voulu expliquer comment ça s'est passé. Puis c'est pas facile, là. C'est pas facile.
Et les proches ne le savaient pas non plus. En plus de ne pas être médicamentée, les proches ne le savaient pas.
Je ne l'ai pas dit même à mon conjoint Minou. Parce que j'avais tellement mis de masques de la super Marthe, de la Marthe qui savait tout, qui était toujours en avant, qui disait aux autres, « Hey, tassez-vous, tu vas voir, ça va y aller », que j'ai pas voulu. Je pense que j'ai eu peur qu'il ne m'aime plus. Oh, il regarde dehors. On a une situation. Oui, c'est vrai, j'ai eu peur qu'il ne m'aime plus. Oui, c'est vrai.
La super Marthe, est-ce que ça a fait du bien à un moment donné de dire « je le sais pas » à quelqu'un qui pose une question, parce que vous avez toujours essayé de tout savoir,
ouais.
Là, de dire « j'en ai aucune idée ».
Je me rappellerai toujours cette journée-là. On est dans la serre, et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui me demande quelque chose, puis là, je me suis à côté, je l'ai regardé dans les yeux, puis j'ai dit « je le sais pas ». La madame a fait « mais Marthe, ça se peut pas, tu sais tout le temps tout ». J'ai dit « ça a failli me tuer, ça ». J'ai failli mourir à cause que je voulais tout savoir. J'ai dit non, je suis pas le bon Dieu, je sais pas tout, puis j'ai le droit de pas tout savoir. Je me suis donné ce droit-là. Maudit que ça fait du bien!
Tout à l'heure, hors d'onde, vous avez dit que quand j'ai le temps, je vais sur la ferme, je traie les vaches à 5h du matin. Est-ce que ça ramène à la vraie vie? Parce qu'évidemment, votre vie a changé dans les dernières années. Vous n'avez pas changé, mais la vie autour a changé. D'aller traire les vaches, est-ce que ça ramène à la vraie vie?
Ben moi, c'est ma vie. Tu sais, je veux dire, je suis en botte à dos et les deux pattes dans la marde. Je suis sur une scène à vous conter de quoi. J'écris des livres. Mais je pense que toute personne humaine a full capacité de plein d'affaires. Puis je trouve de valeur qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas vers toutes les capacités. Tu sais, souvent, on va demander à quelqu'un qui est retraité, « Hey, toi, tu fais quoi dans la vie? » Ils vont dire, « Ah, supposons, j'étais coiffeuse. » Non, non, OK, c'était coiffeuse, là, mais toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bien, c'est ça que je te dis, moi, j'étais coiffeuse. Lâche-moi le « j'étais », qui que t'es, toi? C'est quoi tu fais, toi? C'est quoi tes passions? C'est quoi tes buts? C'est, fais-tu du bénévolat? Est-ce que tu cours? Lis-tu? Fais-tu du jogging? Tu sais, je trouve que on est dans un monde où, dépasser un certain âge, il ne faudrait plus rien faire. C'est ça, cette affaire-là. Hey, wake up les truites, là, tu sais. On a tellement de possibilités, tout le monde. On est tellement actifs, tout le monde. On a une capacité mentale qui ne meurt pas, à moins de pogner une maladie, tu sais. Mais, hey, on a plein d'affaires à faire. Moi, je veux faire des affaires jusqu'à ma mort, là. Tu sais, je veux faire de quoi tout le temps. C'est quoi cette affaire-là de nous dire, hey, à l'âge que t'as, berce-toi puis parle pas. Il y en a, ben! Hey!
C'est vrai. C'était en 2016, la première capsule vidéo. Est-ce que vous attendiez à ça?
Je savais même pas c'était quoi Facebook. Je ne peux pas m'attendre. Je faisais ça pour Marie-France, une de mes clientes, qui était en dépression. Elle voulait rire. Je voulais juste la faire rire. Tu sais, moi, je pense que dans... Puis quand je regarde ma vie, je me rends compte, j'ai jamais rien dit. J'ai jamais pris de grosses décisions dans ma vie, à part te dire oui, là. Ça, c'est la décision de ma vie. Mais... Tu sais, j'ai jamais choisi mon métier, j'ai jamais... C'est toujours des opportunités qui m'ont arrivé d'en face, puis j'ai dit, OK, on va là. La vie m'emmenait là. J'ai jamais choisi. Puis je pense que c'est le plus beau parcours qu'on peut faire dans une vie, parce que si la vie t'amène là, c'est parce que tu es capable de le faire. Ouais. Arrête d'avoir peur, arrête de dire qu'est-ce que le monde va penser. Dans le fond, on s'en foutu ce que le monde pense. On s'en foutu, bâtard. Tu sais, que le monde trouve que tu es belle, pas belle, beau, pas beau, intelligent, pas intelligent. Ça t'enlève rien, ça. Il a le droit de penser ce qu'il veut, la personne à côté de toi. Tu sais, on est toutes libres.
C'est très jeune que vous avez rencontré Minou.
Hey, j'avais 15 ans. On était à la Polyvalente. Il y en avait 17. J'étais assis à Polyvalente dans le cafétéria. Okay. Je ne l'avais jamais vu. J'ai vu passer une brume. Ça a été le coup de foudre. Pas pour lui, mais en tout cas. Puis je l'ai gagné. J'ai vu passer une brume, puis ma chum de fille qui était à Romois, elle a dit, mon Dieu, qu'est-ce que t'as marre? J'ai dit, tu vois le gars là-bas? Je vais le marier. Je l'ai marié 4 ans plus tard. Je me suis mariée à 19 ans. Il y en avait 21. Puis on est encore ensemble. Okay. Il est tough!
Et il vous suit partout.
Oui, on a toujours été ensemble. On a toujours travaillé ensemble. On a eu une ferme laitière ensemble. Il est venu travailler au cerf avec moi tout le temps. Là, on est ensemble. On est tout le temps ensemble.
Ça aide, j'imagine, à faire cette nouvelle réalité-là où vous
promenez
partout,
fait.
Sinon ça aurait été difficile.
Je ne l'aurais pas faite sans lui. Tu sais, premièrement, je ne suis pas capable de dormir s'il n'est pas dans le lit. Je ne suis pas capable. Il me semble que je cherche quelque chose tout le temps. C'est vrai. J'ai besoin de sa complicité. J'ai besoin qu'il me dise, parce que j'ai mes peurs, moi aussi. J'ai besoin qu'il me dise, « Ah oui, Marthe, t'es capable. » Tu sais, avant un show, il me pousse quasiment, « Ouais, let's go, vas-y! » J'ai besoin de savoir qui est là. C'est un gros besoin, oui.
Le livre, c'est une lettre, comme vous l'avez dit, à la personne qui va lire le livre. Mais est-ce qu'on le fait un peu pour ses enfants aussi, de dire, ben ça, c'est maman, c'est la vie de maman avec ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de moins beau, puis vous allez avoir comme un accès à un bout que vous ne saviez peut-être pas?
Mes enfants, il y a des choses là-dedans qu'ils ne savaient pas. Je ne voulais pas le dire avant qu'ils lisent le livre, puis qu'il serait mis en vente. Quand ils ont reçu le livre, ils ont dit, on aurait pu le lire avant. J'ai dit non. Parce que ça m'aurait peut-être freiné, moi. Ouais. J'ai dit, je veux que tu découvres la femme qui est en arrière de la mère. Tu sais, beaucoup de femmes ici, on est des mères, devant nos enfants, quand ils ont de la peine, on est toujours là. On sait tout le temps qu'est-ce qu'il y a, faites-en pas. Quand il arrive des coups durs à nos enfants, ça va aller mieux. Tu sais, on est toujours le filet protecteur. Mais là, de voir comment moi, j'ai vécu ça. comment moi je vivais, malgré que j'ai dit, ben non, c'est pas grave. Ma peur à moi pour eux autres, mais ma vision de leur vie, tout ça. Ils l'ont lu. Le commentaire que j'ai eu de mes trois gars, parce que moi j'ai eu trois gars, c'est drôle de voir la femme, pas rien que la mère. Puis je pense que c'est important, ils sont rendus adultes, ils ont des enfants, les trois, ils sont mariés, les trois, de voir la femme en arrière, puis l'homme, parce que je parlais aussi de Minou, ça leur a fait du bien. Puis j'ai dit, je veux surtout pas que vous deveniez des super parents. On fait ce qu'on peut. On fait rien que ce qu'on peut quand on est parent. On fait de notre mieux, mais on fait rien que ce qu'on peut. On sait pas tout. On fait ce qu'on peut. Il n'y a pas de cours pour être parent, c'est ça.
La naissance de Jeanne, qu'est-ce que ça a changé dans la famille?
Mon Dieu.
Jeanne qui a le syndrome de Rett atypique, on ne connaît pas tant ça, cette maladie.
Bien, le syndrome de Rett atypique, pour te le décrire un peu, c'est une mutation génétique. Les parents ne sont pas porteurs. C'est une fille sur 65 000 environ qui a ça. C'est tombé sur nous. Moi, c'est ma première petite fille. Tu sais, quand ta bru atteint le premier petit enfant, moi, je capotais. J'avais tellement hâte d'être grand-mère. Et quand elle est venue au monde, elle était déclarée normale. On le sait après, quand elle commence à faire des crises d'épilepsie, puis tout ça. Là, j'ai mangé ma claque. Je relevais de ma dépression. Jeanne est venue au monde en 2013. J'ai fini ma dépression en 2010. Là-dessus, mon père est mort. Ma belle-mère est morte. J'ai vécu une claque, là. Et quand Jeanne est arrivée, j'ai retombé assis, puis j'ai dit, ah, tabarouette, on repart, là. J'ai dit, c'est pas vrai que je vais repartir dans le trou. Et j'ai été longtemps dans la rage. Il a fallu que j'apprivoise Jeanne. Mais maintenant, Jeanne, je vois ça comme un cadeau du ciel. Jeanne est parfaite. Tu sais, Jeanne n'a pas de défaut. Jeanne, elle aime tout le monde. Elle ne fera jamais de mal à personne. Elle ne parlera jamais en mal de quelqu'un. Quand je vais mourir, j'aimerais être au stade qu'elle est là. Ça lui a été donné gratis. Elle est sainte, Jeanne. Tu sais, puis moi, maintenant, je la vois comme ça. Mais ça n'est pas évident au début, non.
Vous m'avez déjà dit, connaissez-vous beaucoup d'enfants de cet âge-là qui ne parlent pas, qui démarrent des fondations?
Oui.
C'est quelque chose quand même.
Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, ah, ces enfants-là, ils ne feront jamais rien dans la vie. C'est pas vrai. Tu sais, moi, je lui réponds, Jeanne, elle a 9 ans. Elle a 10 maintenant. Elle marche pas, elle parle pas, elle est gavée. Je dis, sans parler, cette petite fille-là a parti d'une fondation. Si Jeanne n'aurait pas été dans ma vie, j'aurais jamais fait ça. Moi, je ne serais pas ici aujourd'hui. Là. Je serais dans mon rein avec mes plantes puis je serais heureuse. Tu sais, Jeanne, elle m'a propulsée en avant pour les enfants comme elle parce qu'on veut donner une raison à sa maladie. Puis Jeanne, le neurologue nous a dit, elle comprend tout ce que vous dites. Et c'est drôle parce que quand on envoie un chèque pour un enfant, puis qu'on dit, Jeanne, on envoie un chèque à un ami, et là, elle sait c'est quoi. Puis c'est sa raison de vivre. Tu sais, il nous avait dit, elle ne dépensera pas 5 ans, elle en a 10. Cet enfant-là, c'est sa raison de vivre. Puis wake up, la grand-mère, elle monte au bat en tabarnache. Je suis plein de chrétiens qui vont m'arrêter. Il va empoigner une maudite.
Est-ce que c'est devenu clair vite après le succès des premières vidéos que tout ça, ça allait être pour Jeanne en partie, pour ses enfants-là?
C'est devenu clair tout de suite. Et Jeanne n'a pas accès à l'argent de la fondation. Puis c'est correct parce que sans ça, ça pourrait devenir un détournement fiscal. Puis tu sais, on garde tout l'argent pour la petite. Tu sais, on donne pour Jeanne, mais c'est pas par la fondation. C'est mon argent, notre argent à nous personnellement. C'est devenu très vite parce que quand Marie et Éric, les parents, Éric, mon gars, Marie, Christine, ils ont tombé en dépression, veut pas, je me suis dit, si on peut donner une raison quand Jeanne va partir, à ce que Jeanne ait vécu ça, on a donné. Puis c'est ça.
Des gens peuvent faire des dons sur le site de la Fondation.
Oui,
là,
ils peuvent aller.
On peut acheter des livres, on peut aller voir en show, mais on peut donner aussi sur le site de la Fondation.
Tu peux donner sur le site de la Fondation, fondationmartlavadia.com. Mais quand tu viens voir mon show ou que tu viens à une conférence ou tu achètes un livre, il y a une grosse partie qui va toute là à la Fondation. Fait que tu donnes par la bande. Puis tu sais, je me dis, tout le monde a beaucoup de dépenses. On ne veut pas quêter, mais en faisant ça, les gens donnent pareil, tu sais. Mm-hmm. Moi, je me dis, personne assise dans la salle, il y a une partie de son siège qui est donnée pour la Fondation. Puis j'y remercie tout le temps parce qu'ils ne sont pas obligés de venir me voir. Ils ne sont pas obligés d'embarquer dans cette folie-là. Puis merci, là, tu sais.
Ouais. En plus de tous les projets, il y a un spectacle maintenant. Et d'ailleurs, je l'annonce pour les gens qui ne le savent pas. Le 14 octobre prochain, vous serez à la salle Georges Codling du Marché des Arts des Jardins, ici à Sorel-Tracy. C'est le lancement de la programmation cette semaine. Les billets seront en vente tout de suite après. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans ce show-là?
Dans ce show-là, mon ami, je vais être là le 14 octobre avec vous autres. C'est moi qui l'ai écrit. Ça n'a pas été long. C'est ma vie.
C'est la bio, dans le fond.
Non, c'est des anecdotes niaiseuses de ma vie. Après moi, on en a vécu. Dans tous les métiers que je fais, tu sais, moi, je suis horticultrice, paysagiste, décoratrice de mariage, cuisinière, massothérapeute, en veux-tu, en v'là. Et on rit du début à la fin. Puis ce qui est drôle, c'est qu'à un moment donné, il y en a une qui est venue à une de mes conférences. Puis elle a trop ri, il a fallu qu'elle sorte. Fait que quand elle est rentrée, elle est venue me voir, elle a dit « Je voulais acheter des billets », mais elle a dit « Je suis pas assez forte physiquement pour aller vous voir.
» Faut être en santé pour aller vous
voir. Faut être en santé, puis mettez-vous un petit pad, moi je m'en mets deux. Parce que quand tu te mets à dégoûter, c'est pas le fun, je veux dire, j'ai pas de plaisir. Mais moi je m'en mets deux, je le cache pas, deux pads.
C'est Mario Jean qui fait la mise en scène.
C'est Mario qui fait la mise en scène. Puis pauvre Mario, des fois, supposons, il me faisait pratiquer parce que je fais des personnages. Puis à un moment donné, il disait, ben là, on va le faire arriver par là. Mais moi, je disais, ben non, là, le pick-up était là, moi, j'étais là. Mais il disait, vire les bons montants, personne ne le voit. Il dit, c'est pas drôle. Il dit, quand quelqu'un l'a vécu, il dit, il le voit. Mais j'ai dit, mais on a bien du fun. Ouais, c'est un bon gars, Mario.
Donc, est-ce qu'il y a des clients dans ce show-là? Est-ce qu'il y a des parodies de clients que vous avez eues?
Il y a des clients, mais tout ce qu'il y a là-dedans, j'ai demandé aux clients avant. On change le nom, bien sûr, mais j'ai dit, vous allez vous reconnaître. Et c'est sûr qu'on grossit l'affaire un peu. Mais il y en a un que je n'ai pas changé le nom, puis je ne pensais plus qu'il était dans ma proche, et je l'ai pogné en show! Il est venu me voir après le show, il dit, vous parlez de moi. Je veux. J'ai dit... J'ai dit, j'ai pas changé ton nom. Il dit, c'est pas grave. Il dit, c'est des beaux souvenirs. Est-ce que quand vous allez venir voir le show, vous allez dire, mon Dieu, ce gars-là, il se contente de peu.
Est-ce que ça a fait du bien de l'écrire, ce show-là? Parce que là, c'est vous rappeler plein de souvenirs de plein de monde, de plein de gens que vous avez croisés
ben
dans
écoute,
tous vos métiers.
Je vais te dire, je l'ai écrit en une heure.
Wow.
Parce que quand tu l'as vécu, tu te rappelles même des odeurs. Je veux dire, et moi, je suis pas un humoriste. Je suis une conteuse. Je raconte des choses. Fait que c'est pas un show de stand-up. C'est un, deux, trois, on rit. Un, deux, trois, on rit. Moi, je vous emmène dans ma vie. Puis c'est fou. Des bouts, je ris, moi, tout. Je dis, attends un peu, moi, la rire. C'est parce que je la revois. Mais j'aime bien ça. Oui, c'est le fun.
C'est une belle surprise, ça, que les gens décident d'investir de leur temps, de leur argent, dans toute l'offre de spectacle qu'il y a, pour dire, ce soir-là, on le passe avec Marthe Laverdière.
C'est quasiment plein partout. J'en viens pas. Tu sais, je me dis, où le monde, il sort de la COVID, puis il vire fou, il faut qu'il voie quelque chose. Au bedon, c'est pas pire, mais en tout cas, je me pose pas trop de questions.
Et là, c'est commencé, le rodage est commencé.
Le rodage, je l'ai fini officiellement mercredi. C'est quand tu reçois ton décor, tes lumières, tu sais, tout ton affaire. C'est un show qui me ressemble tellement. Je voulais pas beaucoup de décors parce que je m'enferge dans tout. Moi, je suis hyper active. J'ai dit, mais pas trop de stock, on va se ramasser à l'hôpital. Tu sais, je voulais de quoi qui me ressemble, de quoi, où est-ce que je suis proche du monde, où est-ce que je lui raconte des affaires. Puis ils m'ont écouté, je pense que ça va être... Oui, c'est un bon show. Oui.
Ça s'est passé comment, le rodage? Est-ce que vous avez aimé ça, cette expérience-là? Parce que c'est de l'essai-erreur, en même temps,
c'est de l'essai. Ben écoute, je vais te dire que, oui, il y a eu des modifications, surtout sur le jeu des personnages. Parce que quand tu comptes, à un moment donné, tu sais, ils ont des mimiques. Je les gardais pas tout le long. Mario disait, « Marthe, c'est qui? » OK, je reprenais ma mimique. Mais pour le fond de l'histoire, ça a toujours été le même. Okay. Tu sais, je veux dire, les gags, c'est toujours les mêmes. C'est ce que j'ai vécu. Mais avec Mario, j'ai beaucoup travaillé les personnages. T'sais, j'avais commencé avec Jean-Michel, mais à un moment donné, Jean-Michel, il a manqué de temps. Jean-Michel Anctil, puis après ça, il dit, moi, je ne suis pas un gars qui vient du théâtre. Il dit, ça te prend quelqu'un qui fait du théâtre pour les personnages. Puis j'ai rencontré Mario, puis ça a fité parce que lui, il a vécu les deux, et l'école de théâtre et l'école d'humour. Ouais.
Il y a eu des romans aussi dans tout ce parcours-là.
Ben
c'est
oui.
Arrivé comment, l'idée d'écrire
les romans,
des romans?
Ça, c'est niaiseux. Ma gérante, Lorraine, c'est une femme qui aime beaucoup lire, elle vit seule. Elle a 71 ans, Lorraine. Et l'automne a toujours un petit creux de vague, tu sais. Fait que une nuit, je ne dormais pas, je ne dors pas beaucoup. J'écris un premier chapitre. Le lendemain, j'ai envoyé ça. Elle dit, donc, ben bon, ça, envoie-moi la suite. Fait que j'écrivais le chapitre la nuit, j'ai envoyé le jour. Au bout de 39 nuits,
il y avait un roman.
Elle dit, c'est donc bien bon, ça, c'est qui? Ben, j'ai dit, ben, c'est moi. Elle dit, c'est toi. Fait qu'elle dit, pour moi, elle dit, Marthe, tu as écrit une trilogie. Je dis, voyons donc, toi. Fait que j'ai envoyé ça aux éditions de l'Homme en lui disant, ben si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, tu reçois au bout de tes bras, pas pyramide. Et là, ils ont dit, Marthe, c'est super, mais tu écris action-réaction. Elle dit, là, il faut que tu reprennes chaque chapitre puis que tu décrives les paysages, décrives les personnages, décrives les maisons, ainsi de suite. Mais ça s'est fait en 39 nuits. C'est un peu niaiseux. Mais ma vie est un peu niaiseuse, je pense. D'ailleurs, c'est de même.
Allez-vous en faire d'autres?
Oui, au printemps prochain, il y a un autre roman qui sort. J'ai fini de l'écrire. Je l'ai écrit en 3 semaines, mais là, c'était le temps des fêtes. Il fallait que je reçoive mon monde. Mais il est très, très bon
comme
aussi.
Comme si ça avait pris du temps, 3 semaines.
Mais j'ai trouvé que ça long. 3 semaines par temps perdu au travers des tourtières et des pâtés. Mais j'adore écrire parce que ça te sort de, je veux dire, moi, j'écris beaucoup des romans historiques. J'aime beaucoup l'histoire. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu des vies extraordinaires. Puis ça va se perdre. J'aime écrire leur vie. C'est toujours basé sur des choses que j'ai entendues de mon père, qui était un grand conteur. Moi, je trouve de valeur que beaucoup de gens âgés, on les laisse plus parler parce que c'est des encyclopédies super. Mm-hmm. Moi, j'ai appris mon métier d'horticulture pas mal plus avec des gens âgés qu'à l'école. Les gens âgés me fascinent. Moi, s'il y a quelqu'un, là, 80, 82, 85, 90, je me colle à ras et je dis « raconte-moi des affaires mm-hmm. ». Je trouve ça tellement riche, tellement riche.
Et quand on les écoute pas, c'est une partie de notre histoire qui s'efface tranquillement.
C'est un crime. C'est pas rien que c'est un crime. Parce que tout ce qu'ils ont vécu, c'est de l'expérience. C'est, on vient sur Terre pour montrer ce qu'on a appris. Puis de nos jours, on dit, rentre dans un petit CHSLD puis ferme ta gueule. C'est affreux. C'est affreux parce qu'on perd toute l'expérience de ces gens-là. J'ai vu à une place, une bibliothèque qui faisait des journées chaises. C'est 2 chaises un peu dos à dos comme ça, là.
Okay.
Si tu vois la personne, puis c'est une personne âgée qui s'assoit. C'est des livres vivants qui appellent. Puis tu vas t'asseoir à une personne, puis elle va te raconter des choses.
Wow.
Tu écoutes son livre de sa vie.
Wow.
Et ça, on devrait en avoir partout.
Ben oui.
Partout. Tu sais, que ça soit son vécu, que ça soit une personne qui cuisine ses recettes, ça peut être une personne qui a eu un métier extraordinaire, elle te raconte son métier. Mais pourquoi on ne fait pas ça? On est tous des livres supettes, là, dépassés à un tel âge, là. Je regarde ça. On est tous des livres supettes, là. Ce qu'on fait, à ne pas les compter, là. Tiens, wake up on. Moi, je n'en viens pas. On devrait tout écrire. Tout le monde devrait écrire au moins sa vie pour sa famille. Oh, y'a, que ça soit publié ou non. C'est pas ça le but. C'est de laisser à ta famille ta vie. C'est merveilleux, ça. Tu sais, vos arrière-petits-enfants ne sauront pas qui vous étiez, là. Ils vont rien qu'avoir le nom sur un arbre généalogique. Mais le vécu, tes sentiments, ton vécu, écrivez-le. C'est merveilleux, écrire.
Puis c'est pas vrai que c'est pas intéressant. Il y en a qui le font pas en disant « ça intéresse personne
». Qui n'a pas une vie intéressante? Hey. On a tous des hauts, des bas, puis des paires de bas, comme disait mon père. Des paires de bas, souvent, oui. Tu sais, écrivons-les. T'sais, moi, je garde...
Vous avez dit tantôt que le côté content, ça vient de votre père?
Pépé, c'était un conteur. Pépé, je m'arrête assis des heures pour l'écouter conter. Autant c'était un homme gêné puis qui était très réservé en public. Il ne voulait pas être vu. Autant quand on était en famille, il nous racontait ses affaires. Puis tu voyais le petit coin qui retroussait parce qu'il avait envie de rire. J'ai adoré mon père. J'ai adoré mon père.
Donc, c'est pas une surprise que vous fassiez ça.
Je retiens ça de lui.
Même si lui, c'était pas en public.
J'ai le côté conteur de mon père, puis ma mère, il paraît que c'était une grande gueule qui m'a parlé beaucoup. Mais moi, je ne l'ai pas connue. Tu sais, elle est morte, j'avais 2 ans. Mais je pense que j'ai eu le meilleur des deux, oui.
Donc, élevé tout seul par votre père?
Oui, papa nous a élevé tout seul. On est à 7. C'est
rare
filles,
à cette
gars.
Époque-là, quand même.
Bien, écoute, moi, je me rappelle que dans ce temps-là, on est en 65. C'était mal vu, un homme tout seul avec des filles.
Oui.
Et il a appelé ça le secours à l'enfance, que papa disait. Il n'appelait pas ça la DPJ. Moi, je me rappelle, puis je ne l'ai pas écrit dans le livre parce que d'aucune de mes sœurs ont très mal vécu ça. Il y avait des gens qui venaient régulièrement chez nous en habit-cravate. Puis à chaque fois que papa voyait arriver ces gens-là, il disait « Montez en haut, les enfants ne descendaient pas ». Puis je comprenais pas. Moi, j'étais la plus jeune. Puis je regardais par la grille de la cuisine, tu sais. Il y avait une grille, puis je regardais ce qui se passait. Et je me rappelle que la dernière fois qu'ils sont venus, ils avaient mis plein de papiers sur la table. Puis j'entendais que On était toutes déjà placées dans des familles. Puis mon père, qui n'avait plus d'arguments pour dire qu'il voulait nous garder parce qu'on était pauvres, a été chercher un grand couteau dans la cuisine. Il l'a mis sur la table et dit, « Prenez-la, mes enfants, mais tue-moi avant de partir. » Puis ils sont jamais revenus. Jamais. Puis
ben,
jamais.
Il a compris que
puis là, moi, ça m'a impressionné, ce couteau-là. Puis j'ai compris cette journée-là que Pépé, il avait dit, « Ça passe ou ça casse. » Puis ça a passé. Dieu merci, j'avais un père extraordinaire.
On a parlé de la fondation tantôt. L'objectif de la fondation, c'est de faire construire une maison de répit pour les familles d'enfants comme Jeanne.
Oui. Donc, présentement, on donne. On donne pour des répits, on donne pour des choses, des chaises roulantes, des lèvres-personnes, ainsi de suite. On donne aussi pour des soins au privé. De l'ergo, de la physio, ainsi de suite, parce que ces enfants-là, ils ne peuvent pas attendre la liste qui passe sur le public. On donne. Moi, mon rêve, ça, les conférences, les livres, on y va à fond, ça va bien. Mon rêve avec le show, c'est une maison de répit sur la Rive-Sud, dans mon coin, parce qu'il y en a sur la Rive-Nord, elle est débordée, il y a des mois d'attente, tandis que si on est capable d'en avoir une de l'autre bord, là, je serai contente. Moi, tout ce que je demande, c'est qu'il y ait le nom de Jeanne, sa bâtisse. Parce que le jour où ce qu'elle va partir, je veux que ses parents disent, « Jeanne, elle a bâti ça. Elle a bâti ça, elle, toute seule. » Puis ça, c'est hyper important. Quand je me suis fait approcher, quand je suis allée avec le groupe Encore, je leur ai parlé de mon objectif, je leur ai parlé de ce que je veux faire. Puis j'ai dit, « Penses-tu que je suis capable, avec un show d'humour, d'y arriver? » Ils m'ont dit, « Oui, Marc. » J'ai dit, « Signe. En haut, en bas, envoyez donc, et là. On ira. » Je ne me suis pas posé plus de questions que ça, parce que j'ai 60 ans, j'en ferai pas 15, chaud, c'est sûr. Puis je me dis, si je suis capable d'arriver là, je vais me coucher dans la boîte, le chapelet des mains, puis me dire, ferme le couvert, mémé est fatigué. Alléluia!
À la fin de la tournée, logiquement, cette maison-là sera payée, ou en tout cas en partie.
Oui, j'espère.
Est-ce qu'il y aura une fierté qui va vous habiter de voir qu'on arrive là? Évidemment, pour Jeanne.
Je vais te dire, si je réussis ça, je vais faire un appel. Tous ceux qui sont venus me voir en show, en conférence, en acheter des livres, venez pour couper le ruban. Et j'espère que Jeanne sera encore là pour... Bien, c'est sûr qu'on va lui aider parce qu'elle ne tient pas beaucoup de choses dans ses mains. Mais je veux que ce soit elle qui donne le coup. Je veux comprimer sa main pour couper ce ruban-là.
Les serres ont changé de vocation à cause de la pandémie. C'est devenu un maraîcher.
On est devenu maraîcher avec la pandémie. On a fermé 2 ans parce que ce que le gouvernement demandait, c'était trop compliqué avec mes structures comme ils sont là. On est devenu maraîcher. Fait que ça me donne du temps parce que je n'ai pas besoin d'être tout le temps là. On n'est plus ouvert aux passants. On a des clients fixes sur le maraîcher. Et ceux qui travaillent avec moi, ben, ils n'ont pas besoin que je sois toujours là. Fait que ça me donne une grosse chance.
Donc, c'est arrivé à cause de la pandémie, mais finalement, ça fait du bien quand même, ce changement-là.
La pandémie, pour moi, je l'ai trouvée dure, oui, mais en même temps, elle m'a fait soigner sans le vouloir. Tu sais, quand je dis que j'ai jamais rien décidé, la vie me fait tout le temps « envoie ici, envoie là, envoie là, envoie là », puis je me pose pas de questions. Moi, je suis pas une personne qui se pose beaucoup de questions. Je suis croyante. Je crois qu'en haut, il y a quelqu'un qui dit, « OK, la bonne femme, toi, t'es assez folle pour faire de quoi pour les autres. Let's go. » Puis je me laisse guider. Je veux pas analyser. Je veux pas analyser ce que je fais. Je veux pas me remettre en question. Je l'ai assez fait dans ma vie. Puis je suis convaincue qu'en haut, il va m'emmener où est-ce qu'il faut. Puis c'est correct.
Et là, les prochains mois, c'est ça, c'est le show, en fait.
C'est le show. Je donne beaucoup de conférences. Je donne 1-2 conférences par semaine, des fois 3-4.
Qui ne ressemble pas du tout au show.
Non, c'est pas du tout. Là, en conférence horticole, je veux dire, je donne des trucs horticoles. Dans le show, je parle même pas d'horticulture. Tu sais, je vais parler de mes clients, de choses que j'ai vécues sur le paysagement ou ainsi de suite, mais je donne pas de réponse horticole. Là, tu sais,
on me dit un petit peu du côté de Minou.
Ben ça, c'est après le show. Mais c'est sûr qu'il faut que j'en parle. Mais non, tu sais, c'est complètement différent. Là. C'est complètement différent.
Est-ce qu'avec la pandémie, les gens se sont mis à jardiner plus qu'avant? Parce qu'évidemment, on est à la maison puis on veut que
on a eu un pic. C'est parti en fou. Mais moi, j'avais toujours dit, après pandémie, on va retomber dans un normal.
Ceux qui disaient ça avant, il y a
c'est ça
encore.
Ceux qui ont dit, j'essaye ça, mais que ce n'est pas dans le fibre, ce n'est pas dans leurs intérêts, ils ont laissé tomber. Je pense qu'on va revoir un pic où est-ce que les gens vont jardiner plus le jardin, à cause que tout monte. Hein, on voit qu'on a une inflation, fait que les prix montent. Veuillez pas, il y en a qui vont essayer d'avoir du frais parce que le frais est rendu dispendieux. Mais tu sais, c'est toujours pas mal tout pareil. Là, tu sais, c'est, tu l'as ou tu l'as pas. Là, t'aimes ça ou t'aimes pas ça. Là.
Est-ce que d'avoir fait tout ce bilan-là, autant par la dépression que par le livre, avant la soixantaine, ça fait que la soixantaine est plus heureuse que la cinquantaine, par exemple?
Moi, je veux dire, quand j'ai sorti de la dépression, j'ai tué beaucoup de choses dans mon chèque. J'ai tué le fait d'avoir peur de vieillir. Parce que si tu ne veux pas vieillir, tu veux mourir. Hein?
C'est tout. Pas d'autre option.
Bon. J'ai tué ce que le monde va penser de moi. On s'en fout comme dans l'an 40. De toute façon, il y en a tout un qui vont vous aimer et ceux qui vous aiment au beau. On s'en fout. Tu peux pas être aimé tout le monde. J'aime pas tout le monde. Puis, une autre affaire, la peur du ridicule, je l'ai rentré tellement profond, je pense que je ne l'enverrai jamais. Tu sais?
Est-ce qu'il y a des vidéos que vous avez regardées, vous avez dit « Ah, pourquoi on a mis ça en ligne? »
Pas du tout. Okay. Nous autres, on fait du one-shot. On part la vidéo, puis je dis « Mets ça là. » Puis si tu l'aimes, tu l'aimes. Si tu l'aimes pas, tu l'aimes pas. Tu peux regarder autre chose, pas pire que ça.
Marc, tu vas inviter les gens à aller voir en spectacle ici, oui. Sorel, le 14 octobre prochain.
Oui.
La programmation sort mercredi, donc les billets seront en vente.
Lâchez-vous aussi. Date-là.
Remplissez la salle. En plus, c'est pour une bonne cause.
Oui,
il y a
une partie qui est pour une bonne cause. Oui.
Puis j'invite les gens qui sont ici à venir se procurer des livres. Là, il y en a plein.
Ben oui, si vous voulez des livres.
Il y a les livres horticoles.
On a les livres horticoles aussi.
Marc, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui.
Ça me fait plaisir.